Et on peut commencer, voilà, pardonnez-moi. Voilà, donc nous commençons, ou pas recommençons, nous commençons encore et encore, parce qu'on n'arrête pas de commencer. Vous savez que c'est un Grégoire de Nice qui parle de ça, de commencement, qui ne finissent pas de commencer. On est toujours dans le commencement, en fait, de la vie, le commencement de la connaissance, le commencement de la. Réflexion, et quelque chose qui commence spirituellement, parce que l'action de Dieu dans notre vie est essentiellement une action qui initie, qui donne l'impulsion de l'existence et l'impulsion de la connaissance. C'est pour ça qu'on se laisse commencer, on se laisse mettre dans le commencement par l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit. C'est très intéressant. Et donc on n'a pas fini de commencer, en fait. Et en même temps, donc nous commençons ensemble cette année an de grâce, c'est avec le Christ quand il est dans la synagogue de Capharnaüm, je crois, donc il lit la Torah et voilà, il dit Dieu donne un an de grâce, et donc mais ça veut dire que chaque année est une année de grâce, pas en comparaison des autres, mais en elle-même. Y compris avec les épreuves inévitables qu'elles comportent. Nous considérons que les épreuves sont permises par Dieu et donc viennent vers nous avec la grâce correspondante. Il y a assez de grâce avec chaque épreuve pour que l'épreuve soit utile pour l'homme et lui permette de se construire et de grandir. Donc cette année que je vous souhaite bénie et belle et bonne est un an de grâce. Nom de grâce du Seigneur, et nous voulons, et ça aussi je tiens à dire ça aussi, parce que pour moi l'activité ou le service théologique dans l'Église est toujours lié à la vie liturgique, au temps liturgique dans lequel on est. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est à la fête de Saint-Nicolas comme tous les jeudis, on avait dit ça tout à l'heure, mais on est dans cette après-fête de la théophanie ou épiphanie ou baptême du Christ. Donc, forcément, ce qu'on va essayer de dire ou de contempler ou de goûter, disons, de la sagesse de Dieu, ça va être quand même dans cet esprit-là. Vous avez entendu, nous avons chanté ensemble notre père de la fête. C'est un père qui est profondément dogmatique, hein, puisqu'il exprime le fait que dans le baptême s'est manifestée la Trinité et que dans le baptême, c'est très très important, le Christ a été manifesté comme l'un de la Trinité. Qui n'était pas forcément très clair au moment de la nativité à Bethléem. Et là, donc, il n'est pas agrégé à la Trinité. Hein. C'est une hérésie. Il n'est pas adopté par la Trinité. C'est une hérésie également qu'on appelle l'adoptionnisme. Mais il est manifesté comme étant l'un de la Trinité. Et c'est la voix du Père qui dit ça, qui atteste ça. Parce que Saint-Hilaire de Poitiers, qu'on fête dimanche prochain, Saint-Hilaire de Poitiers, il dit ça, il dit, on n'avait pas assez de la nativité, on n'avait pas assez du témoignage des mages, on n'avait pas assez du témoignage des bergers, des anges, des pasteurs, il fallait que le Père témoigne lui-même, atteste lui-même que le Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est son Fils bien-aimé et qu'il se reconnaît en lui. On traduit plus ou moins bien, enfin, mon Fils qui a toute ma faveur, c'est bien, mais dans le Evdokeo, en grec, ça veut dire quelque part, ça veut dire se reconnaître en quelqu'un. Donc le Père se reconnaît dans le Fils. Et c'est ça la grande beauté dogmatique de la fête. Alors donc ça permet d'introduire notre thème. Vous savez que donc en 2012, nous avions eu une séance. Déjà sur ce qui m'amène ce soir, disons, sur ces notions de dogme et kérigme. Alors le dogme, on a déjà parlé de ça, on ne va pas revenir trop dessus, quoi qu'un petit peu, et on va continuer cette question du kérigme, et sans refaire tout, parce que ce serait trop long. Donc j'avais expliqué les mots grecs, hein, qu'est-ce que c'est qu'un héros, H-E-R-A-U-T en français, celui qui annonce la volonté du roi, et l'occurrence la volonté de Dieu, et on avait dit que le kérigme, ben, c'est ce qui est annoncé, et qu'en l'occurrence il s'agit de la vérité de l'Église. Alors aujourd'hui, je voudrais m'attacher plus particulièrement à des textes de Saint Basile. D'abord, c'est ce que j'avais annoncé. Et puis Saint Basile est très représentatif de la pensée théologique des pères de l'âge d'or. Je ne sais pas, peut-être plus que d'autres, je ne sais pas. Il y a quelque chose de particulier chez Saint Basile, c'est la précision dans les mots, dans la terminologie. Et ça, nous le voyons dans des textes que vous ne pouvez pas lire beaucoup, c'est un petit peu inaccessible, dans ses lettres. Il y a des lettres de Saint Basile, très nombreuses, qui font 3 volumes au moins dans la collection de Guillaume Budet, la collection des belles lettres. Et dans ces volumes, qui sont des lettres écrites à toutes sortes de personnes de son temps, des évêques ou des églises entières, il écrit à l'église d'Antioche, par exemple. Dans ses lettres, il donne beaucoup d'enseignements, mais très 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 souvent, l'enseignement qu'il donne consiste à préciser le sens des mots. Le sens des mots. Et donc c'est lui qui précise, peut-être mieux que d'autres, le sens du mot kérigme, et il le fait dans un texte que j'ai beaucoup utilisé, dont je vais vous lire les extraits, qui est un texte qui s'appelle le traité du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, pardon, qui est un très beau livre aussi, qui lui est publié dans les sources chrétiennes, je ne me souviens plus exactement du numéro, je vous demande pardon, mais donc ça, c'est un peu plus accessible pour vous, vous pouvez le trouver en bibliothèque facilement, mais je ne crois pas qu'il existe dans une édition uniquement en français. Généralement, l'édition qu'on trouve au CERF, c'est bilingue. Ce qui est plus intéressant pour ceux qui, parmi vous, connaissent un petit peu le grec, c'est toujours très intéressant de revenir à la source qui, pour nous, les orthodoxes, est beaucoup la source grecque. C'est aussi la source hébraïque, mais c'est quand même principalement la source grecque. Vous savez que la Bible elle-même, pour nous, est une source grecque. Voilà, donc, Saint Basile reprend dans ses textes des lettres et du traité du Saint-Esprit, il reprend dans plusieurs passages l'interprétation de ces mots clés qui sont donc dogme et kérigme, dogma et kérigma. Et donc, voilà, je vais vous parler de cela. Alors, je crois que d'abord, pour lui, le terme qui donne chez nous kérigme, que j'ai expliqué l'autre fois comme étant une annonce, etc., c'est vrai, mais lui, il l'emploie dans le sens d'une définition. Pour lui, le kérigme ou un kérigme, c'est une définition. Une définition dans l'ordre de la révélation, dans l'ordre de la vérité. Donc, il insiste plus sur cet aspect-là que même sur l'aspect de proclamation. Mais, comme je vais essayer de le montrer, il s'agit d'une définition publique, claire et pour tout le monde, disons. Une définition officielle, de la foi. Et donc il dit ça en opposant, si vous voulez, le concept de dogme qui, lui, désigne la doctrine, la même doctrine, mais la doctrine que l'on garde et que l'on transmet en secret. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important. Je regarde ma montre pour ne pas dépasser l'heure quand même. Cette idée-là, je pense qu'elle est très difficile à comprendre pour nos contemporains, pour le rationalisme occidental en particulier. L'idée qu'il y a, c'est dans ce que transmet l'Église, il y a une certaine vie de la vérité qui est une vie cachée ou secrète, et qui correspond au terme mystikos en grec. Vous savez, on parle des prières secrètes, ou dans la liturgie, prières secrètes, ou ce que dit le prêtre en secret, etc. Ça ne veut pas dire seulement silencieusement, ça ne veut pas dire seulement in petto, ou des prières que le prêtre dit pour lui, mais ça veut dire que ce sont des prières qui appartiennent à la profondeur silencieuse. Il y a un certain secret, il y a un certain secret qui veut dire que ce n'est pas accessible à tous. Ce n'est pas accessible à tous. Alors ça, donc, il faut quand même savoir que c'était l'opinion des pères donc, du 4e siècle, en tout cas, que tout n'est pas pour tout le monde. Mais ce n'est pas seulement leur opinion à eux. Vous savez que dans le Saint-Évangile, il y a des passages où le Christ parle de ça, qui dit que... il parle aux apôtres, il dit « à vous ». Je le dis, à d'autres je ne le dis pas, telle chose est révélée aux petits, mais pas aux autres. Donc, finalement, la vie de la révélation, c'est la vie de la vérité, et donc qui est la vie du Christ lui-même, au fond, qui est la vérité en personne, et la vie du Saint-Esprit, c'est une vie comme ça qui s'articule suivant les personnes, suivant les catégories de personnes qui se trouvent là, suivant leur état de préparation, suivant la pureté de leur cœur aussi, et suivant leur foi. C'est, au fond, ça ne sert à rien. Et je dis, alors qu'on est en train de faire le contraire, puisqu'on parle publiquement, sans très bien savoir où va ce qu'on dit, en fait, ça ne sert à rien de parler de quelque chose à quelqu'un qui n'est pas préparé à l'entendre, hein, et qui n'est pas préparé à engager sa vie dans la vérité qu'il va recevoir. Et une fois, nous avons parlé avec une personne qui voulait devenir orthodoxe. Bon, c'est une bonne idée, mais comment s'y prendre? Et nous avions dit, maladroitement peut-être, nous avions dit à cette personne, mais tu sais, si tu veux devenir orthodoxe, il faut que tu comprennes que c'est pas anecdotique, ce qu'il pensait d'ailleurs. C'est pas uniquement un changement de boutique, un changement de paroisse, ou un changement de service, c'est comme les gens qui passent des CFR à Bouygues ou de Bouygues à Free. Bon, c'est pas uniquement ça, devenir orthodoxe, qu'on est d'accord. Bon. Et là, bon, il commençait à trouver le temps un petit peu long. Et finalement, on lui a dit, si tu deviens orthodoxe, ça veut dire que tu donnes ta vie, que tu sacrifies ta vie pour l'orthodoxie, que tu sacrifies ta vie pour la vérité du Christ. Alors là, ça devient très, 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 très sérieux. Et là, il a dit, il s'est révolté absolument, ce garçon, je le vois encore, et il a dit, mais au nom de quoi est-ce que je vais sacrifier ma vie pour ça ou ça, ou ça, ou ça, au nom de quoi? Et même, il était devenu un peu agressif, il désignait les personnes qui étaient là, où il dit, mais parmi les gens qui sont là, bah, qui sont ceux qui donnent leur vie pour l'orthodoxie? Et donc, je pensais à moi-même, d'ailleurs, je dis, au fond, est-ce que je donne ma vie pour l'orthodoxie? Pas forcément, pas toujours, pas tous les jours, pas tout le temps, chaque jour. Oui. Donc, disons que ça, c'est assez important, c'est que la réception de la vérité, qui est en fait la réception du Christ, hein, la communion à la sagesse du Christ, ça implique le don de notre propre vie, le sacrifice en fait de notre propre vie. Si nous ne sacrifions pas notre propre vie par amour pour le Christ, nous ne pouvons rien recevoir de lui, ou bien nous le recevons de manière extérieure. Mais nous ne le recevons pas justement dans la profondeur du dogme, c'est-à-dire dans la glorification très personnelle, très mystique, au fond, de cette vérité. Nous ne pouvons pas l'adorer. Parce que la question du dogme, c'est lié à la question de l'adoration. Ce n'est pas une question de spéculation théologique abstraite. Vous voyez, le dogme, c'est pas, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas une philosophie chrétienne, une philosophie religieuse, c'est l'adoration en esprit et en vérité, dont le Christ a parlé lui-même à la Samaritaine, je crois. Mais cette adoration, elle implique une oblation de notre propre cœur. Quand tu adores, tu te donnes. Oui. Même physiquement, c'est très beau quand les mages sont venus, puis les bergers, ces gens très exemplaires, ils sont venus, ils ont adoré. Et même Hérode, très intelligent, quand il a dit au mage qu'il voulait trouver celui qui venait de naître, il a dit, dites-moi où il est, parce que je veux moi aussi venir l'adorer. C'était le seul argument qu'il pouvait donner au mage, c'était qu'il c'est-à-dire de prétendre, à tort ou à raison, peut-être pas de bonne foi à ce moment-là, mais de prétendre qu'il voulait lui aussi s'engager dans cette forme de connaissance. Et ça, c'est très 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 beau, c'est pour ça que le thème de l'adoration des mages, qui dans la liturgie latine, il est l'objet d'une fête spéciale, et qui dans la liturgie qui est la nôtre, liturgie donc palestinienne au fond qui est la nôtre, est intégrée au mystère de Noël. C'est un thème qui est absolument fondamental. Je crois que c'est mieux de ne pas le détacher, parce qu'en fait c'est lié au mystère de Noël intégralement. Donc oui, en fait c'est pour dire que ça, c'est que finalement cette notion de secret dont je parlais, c'était pas contre les autres, c'est pas pour empêcher les gens de connaître Dieu, vous voyez, mais c'est pour affirmer qu'il y a une sorte de condition spirituelle requise pour s'approcher de la vérité. Et il y a l'emploi de termes de mystikos, est un mot très 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 important dans l'Antiquité. Beaucoup de saints, par exemple, un peu plus tard, saint Maxime de Compiègne écrit un livre qui est un commentaire de la liturgie, mais il parle de mystagogie, il emploie tout un vocabulaire qui se rapporte quand même au domaine du mystère, au domaine de l'entrée dans les profondeurs impénétrables, au fond, de la connaissance de Dieu. Mais on y entre souvent par le culte, par l'ensemble de la vie chrétienne, d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être une première notion très, très importante, et ça, il l'explique bien, je vais vous lire le texte en entier, dans le traité du Saint-Esprit, justement. Alors, voilà ce qu'il dit. Vous allez voir, je trouve que c'est très intéressant. Parmi les doctrines, entre guillemets, alors, quand il dit doctrine, donc c'est kérigmata, c'est les kérigmes. Doctrine, c'est les dogmes, pardon. Et les définitions. Doctrine sera pour la dogme et définition sera pour la kérigme, pardon. Que conserver dans l'Église, nous tenons les unes de l'enseignement écrit et nous avons recueilli les autres transmises secrètement de la tradition apostolique. Ben, vous voyez, ici on a les deux mots. Dogma, c'est ce que l'on croit vrai, c'est une doctrine. Kérigma, c'est ce qu'on proclame à son de trompe, la fameuse proclamation faite par le héros. Donc dans ce chapitre du Saint-Esprit, dogma désigne les doctrines et les usages rituels, donc liés au culte, ayant l'approbation tacite de l'Église. J'ai souligné le mot tacite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une déclaration officielle pour cela, c'est tacite. Ça se rapporte, je pense, à l'idée de consensus. Il y a un consensus de l'Église qui fait que ces éléments qui se rapportent au culte et à la doctrine sont admis, véhiculés et enseignés, sans être pour autant écrits, et sans être encore moins promulgués ou proclamés à l'extérieur. Alors, en revanche, donc, effectivement, kérigma, ce sont les mêmes définitions doctrinales, si vous voulez, mais les définitions doctrinales proprement dites, ou des prescriptions rituelles ou canoniques, mais tout ce qui est proclamé hautement par l'Église comme norme de la foi ou des mœurs. Ça, c'est au fond, ça se rapporte, par exemple, dans les conciles œcuméniques ou les conciles locaux, qu'on appelle les canons. Les canons n'épuisent pas, c'est important ça, les canons n'épuisent pas la tradition de l'Église, ou la tradition de l'Église ne se réduit pas à l'expression canonique qu'elle trouve. Mais ce qui est du domaine canonique, les canons, qui se rapportent à la doctrine et aux mœurs, au comportement, ça touche toujours les deux, ça c'est ce qui est dit officiellement, accepté dans un concile, imprimé, publié, recopié par les scribes, tout ce que vous voulez, et donc qui prend valeur normative. Mais si on limitait l'enseignement de l'Église à cette dimension-là, ce serait très, 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 très réducteur. Et c'est quelquefois ce qu'on a fait, vous voyez, on prend à la lettre, par exemple, tel ou tel texte promulgué par l'Église dans les conciles, et puis on en fait une espèce d'absolu, alors qu'en fait, non, derrière ça, il y a toute la vie de l'Église, tacite, pas forcément exprimée, ou exprimée dans la pratique, dans les usages, et c'est pour cette raison-là qu'il faut être en communion avec l'Église. Parce qu'on ne peut pas avoir accès à cela si on ne vit pas dans l'Église. Aujourd'hui, sont venues des personnes, justement, encore une personne, des Français, une dame française, qui, comme on a baptisé son bébé dimanche dernier, sa petite fille dimanche dernier, la grand-mère a dit, moi aussi je veux devenir orthodoxe. Bon, voilà, très bien, on a commencé à parler cotisations, tout ça, les choses les plus importantes d'abord, évidemment. Mais surtout, elle me dit que comment est-ce qu'il faut faire. Alors, je ne la taquinais pas trop, j'avais envie de sourire, de plaisanter, mais je lui ai dit, c'est une chose qui pour moi est évidente, je lui ai dit, venez à l'Église, participez à la vie de l'Église. Venez, voyez, soyez là, suivez le mouvement, faites comme font les autres. Si on vous dit que ce n'est pas pour vous, on vous le dira gentiment, par exemple la communion. Participez, 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 parce que c'est quand tu es à l'intérieur de la vie que tu comprends intuitivement, dans le ressenti également d'ailleurs, que tu comprends la vie de la vérité dans l'Église. Donc c'est impossible, s'il vous plaît, d'avoir accès à l'orthodoxie en sens, au sens de vraie glorification de Dieu. C'est impossible d'y avoir accès si on ne vit pas dans l'Église. Et c'est pour ça que là, quand on insiste pour que les personnes soient présentes, les dimanches, les fêtes, etc., c'est pas pour une autre raison que celle-là. C'est que si on n'est pas immergé dans la vie de l'Église, on ne peut rien comprendre. Ou alors c'est une connaissance purement intellectuelle et livresque. Et c'est pour ça que le terme, c'est assez important, c'est lié justement à la fête que nous venons de célébrer, dans laquelle nous sommes encore, justement la fête du baptême. Quand on sait le baptême, c'est avec le mot baptême en grec, baptizo, ça veut dire immerger. Baptisma, c'est immersion. Donc notre vie, notre relation à la connaissance, notre relation à la vérité, notre relation à la révélation, et notre relation à la vérité en personne qui est le Christ, c'est une relation qui est de caractère baptismal, au sens où c'est dans l'immersion et en nous maintenant immergés dans la vie de l'Église que nous le rencontrons, que nous le connaissons et que nous sommes nourris de lui. Alors, de temps en temps, il faut émerger, de temps en temps, on va reprendre sa respiration. C'est pour ça que les bébés, on les plonge une fois, deux fois, trois fois, mais on ne les laisse pas sous l'eau en regardant sa montre pour voir combien de temps il tient sous l'eau. On ne fait pas ça. Donc on les plonge, on les déplonge, si je peux dire. On les immerge et on les émerge. En français, on a ces deux mots-là qui sont très, très intéressants. Mais ça, c'est très important parce que c'est dans l'état d'immersion qu'on a accès au mystère, à ce qui est transmis tacitement, et aux dogmes non écrits, aux choses non écrites, mais qui font partie, et qui sont très très cohérentes, et qui sont avec énormément de stabilité, transmises de génération en génération par l'Église. Le mystère de l'Église est un mystère de transmission de la vérité tacitement ou consensuellement admise par l'Assemblée. Là, quand on dit l'Assemblée, ça désigne les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple. Et qui sont ratifiés d'ailleurs par le peuple liturgiquement quand le peuple dit Amen, ce qui est indispensable. L'Amen du peuple est indispensable, pas seulement parce qu'il valide juridiquement ce qui est proposé par l'évêque, mais parce qu'il signifie l'adhésion du peuple à cette vérité. Mais cet Amen, il est prononcé justement à l'intérieur de la vie liturgique, dans l'état immergé. Ou dans des actions liturgiques, parce que ça peut être dans des actions liturgiques qui sont faites dehors, auprès des rivières par exemple. Mais l'amen du peuple est absolument indispensable, parce que c'est ça qui atteste que la vérité a été reçue. C'est oui, voilà, ça y est, j'ai pris cette bouchée ou cette part de sagesse de Dieu, j'y communie, je m'en nourris, j'y adhère, ça va, on peut continuer, vous voyez. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants. Alors, justement, il y a un exemple qui est historiquement qu'on peut donner et auquel Saint Basile se réfère dans la lettre 52, que vous ne lirez pas, mais je vous cite quand même. C'est ce qui concerne la doctrine de l'unité de substance du Père et du Fils. Je fais exprès de ne pas dire consubstantialité, je pense que le terme consubstantiel est une erreur. Parce que le consubstantiel, d'abord, c'est pas le terme de homoousios, ça n'a jamais été consubstantiel. C'est de même, de nature identique. Et c'est tout à fait différent. Alors, dans consubstantiel, il y a l'idée de participation à une nature existante. Je pense que c'est vraiment un terme erroné. Il faudrait trouver dans la traduction du credo un terme qui dit ça, qui dit de même nature que le Père, de nature identique avec le Père. Or, ce terme de homoousios, vous savez, dans la controverse des premiers siècles et des premiers conciles, il a été, ça a été la pierre d'achoppement, et finalement, il a été choisi par les pères du premier et du deuxième concile œcuménique pour exprimer justement pas la relation du Père et du Fils, mais l'union ontologique du Père et du Fils. Eh bien, voilà un exemple, si vous voulez, de kérigme. Vous voyez, parce qu'il a été promulgué par les pères du Concile. Promulgué et écrit, il y a même des endroits où c'est le credo, le symbole de foi de Nicée-Constantinople a été écrit sur les murs des églises, même gravé sur les tablettes d'argent à Rome, à l'époque où Rome était le centre de l'orthodoxie, eh bien, le credo de Nicée-Constantinople était, je crois, si j'ai bien compris, gravé sur des grandes tablettes d'argent, et ces tablettes d'argent étaient apposées sur les murs. Donc là, c'est vraiment du domaine kérigmatique, vous voyez, ce qu'on publie, ce qu'on inscrit. Alors, et alors, ce que dit Saint Basile, c'est intéressant, dans une autre lettre, lettre 125, il dit que, en fait, cette proclamation, il dit ça, dans une citation, n'a fait que, entre guillemets, rendre manifeste la doctrine du salut. Fin de citation. C'est-à-dire que la doctrine de l'homoousios, elle était vécue dans l'Église bien avant qu'on ne la proclame. Et ça, c'est très très important, ça, parce que nous avons des discussions quelquefois avec d'autres chrétiens qui nous disent que, enfin, concernant la Mère de Dieu, par exemple, parce que la Mère de Dieu est vraiment la pauvre, tellement innocente, et c'est vraiment elle la pierre d'achoppement tout le temps. Le jour où les chrétiens vénéreront ensemble la Mère de Dieu comme Mère de Dieu, on sera sortis de l'impasse du dialogue entre chrétiens. Or, certains de nos amis chrétiens, ou qui se pensent tels, sincèrement, ils nous disent qu'au fond, tout ce qui concerne la Mère de Dieu, c'est une invention tardive. Et forcément, parce que si on attend le Concile d'Éphèse pour penser que la Mère de Dieu a été vénérée par les chrétiens, on n'en sort pas. C'est-à-dire que si on attend qu'il y ait une proclamation officielle, c'est-à-dire, ça veut dire que si on ne comprend pas comment fonctionne l'Église, mais si on sait comment ça fonctionne, on sait très bien que le Concile d'Éphèse n'a fait que proclamer de façon officielle ce qui était vécu dans l'Église, tacitement, mais depuis l'adormition de la Mère de Dieu, depuis toujours. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le sait. Et on le sait par l'iconographie, parce qu'il y a des motifs paléo-chrétiens extrêmement anciens, plus anciens que le Concile d'Éphèse, et qui montrent que la Vierge était vénérée donc d'une manière très très proche de ce qu'on trouve dans les icônes postérieures. Enfin, bon, ça c'est des choses qui peuvent se discuter, mais ce que je veux mettre en avant, si vous voulez, c'est le principe, c'est-à-dire que le kérigme dit officiellement une vérité qui était vécue tacitement, qui continue à l'être, d'ailleurs il ne met pas fin à cette expérience tacite de la vérité, mais il exhume en quelque sorte une vérité. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Ben parce que ça se présente comme nécessaire, parce qu'il y a des discussions, parce que c'est toujours pour des raisons très 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 circonstancielles, contextuelles. Hein, le kérigme est typiquement quelque chose de contextuel. Le patriarche Daniel emploie cette expression-là, il parle de, c'est une très, très bonne expression, le patriarche Daniel dans son, c'est publié dans son beau livre en français, La joie de la fidélité, c'est magnifique comme titre, et il dit ça, il dit au fond que la théologie, dans son expression affirmative, comme ça, elle est une théologie contextuelle. Contextuelle, c'est-à-dire que c'est dans certaines circonstances qu'on est obligé de dire les choses. Et c'est ce qui se passe actuellement, par exemple, avec le débat très intéressant qui a lieu autour de la proposition du gouvernement français de modification de la législation concernant le mariage. Au fond, les chrétiens qui n'ont jamais dit grand-chose là-dessus, sur la sexualité, au fond, on n'a jamais dit grand-chose là-dessus, mais sont obligés de dire quelque chose. Mais ce qu'ils disent, ce qu'ils disent, c'est pas spécialement nouveau. Ils disent simplement ce qu'ils ont vécu tacitement depuis des siècles. Alors on publie un livre, je sais pas, Regard chrétien sur l'homosexualité par exemple, mais on n'invente pas, on dit ce qui a été vécu. Donc ça c'est assez typique, vous voyez, c'est pas un mécanisme si vous voulez, comme méthode, comme façon de fonctionner, si on veut comprendre comment fonctionne l'Église des Pères. Voilà, donc bien comprendre que voilà, le kérigme explicite ou affirme ce qui était vécu tacitement, mais qu'en faisant cela, il n'épuise pas, et que même il présente certaines limites. Je pense que le vécu tacite de la vérité est beaucoup plus riche, beaucoup plus important. C'est ce que dit Saint Jean l'évangéliste à la fin de son texte, de son évangile, comme on dit, enfin de l'évangile qu'il a rédigé. À la fin de l'évangile sur Saint Jean, il dit ça, il dit, bon, dans Dans ce petit livre, vous n'allez pas tout trouver, tout n'est pas écrit, tout n'est pas dit. Et s'il avait fallu mettre par écrit tout ce que le Christ a dit et fait, les livres, je ne sais pas quoi, la terre entière n'y suffirait pas. Donc c'est assez important, c'est-à-dire que Saint Jean lui-même dit ça à propos d'un texte évangélique, que ce texte n'exhume qu'une partie de la réalité et de la vie. Alors, donc ça pose beaucoup de problèmes, parce que du coup, on va dire, mais si on ne va pas s'appuyer sur les choses écrites, où va-t-on, hein? Parce que beaucoup de personnes veulent que je vous décris, on dit, mais c'est ça qu'on croit, si on croit ça, on est chrétien, c'est ça, là, voilà, c'est écrit, donc c'est vrai. Vous m'en dites maintenant, vu à la télé, donc c'est vrai, oui, il y a des éléments comme ça, bon, okay. Mais c'est une impasse, finalement, de fonctionner comme ça, vous voyez. Donc la chose écrite, l'écrit, nous ne lui donnons pas une telle valeur. Il a une valeur, mais il n'a une valeur que par rapport à ce qui est non écrit et qu'il exprime. C'est un peu comme les icebergs, il paraît qu'il n'y en a plus du tout, les icebergs, enfin, de moins en moins, parce qu'ils fondent tous lamentablement au point que les ours blancs vont disparaître. Mais dans ce qui peut rester encore de banquise ou d'iceberg, on sait que la partie immergée est extrêmement plus importante que la partie qu'on voit. Donc c'est un petit peu ça, si vous voulez, le kérigme, c'est la partie émergée de l'iceberg, et les dogmes, c'est la partie immergée, et, qui est immense et qui plonge ses profondeurs dans les océans. Mais c'est une bonne image, je pense. Voilà, donc je ne sais pas... Voilà, donc cette proclamation ne fait que rendre manifeste la doctrine du salut. Alors, ce qui est intéressant, je reste un petit peu sur cette définition de mots pour le moment, avant de reprendre mon texte dans le traité du Saint-Esprit. Et il est intéressant de savoir que le terme de kérigma ou de kérigme se rapporte, par exemple, à la proclamation du jeûne du carême. Vous savez que la date de Pâques est fluctuante, vous apprendrez rien, et que donc cette année, par exemple, Pâques est très loin. Or, il faut savoir que dans l'Église ancienne, et on devrait le faire encore maintenant, j'ai oublié de le faire dimanche, j'étais totalement débordé par la situation, mais normalement, c'est le jour de la théophanie que l'évêque, ou son délégué qui est le prêtre, donc l'évêque quand même, hein, prêtre c'est rien, c'est simplement les délégués, mandataire de l'évêque. Qu'est-ce qu'il fait le jour de la théophanie? Il annonce la date de Pâques. J'aurais dû, donc, dimanche, je ne l'ai pas fait, j'en demande pardon à tout le monde, j'aurais dû dire, on vous rappelle que Pâques c'est le 5 mai, on vous rappelle où on vous l'apprend, où on vous l'annonce, et on vous apprend, où on vous rappelle que le carême va commencer à telle date, que le dimanche du pardon, ça va être le 17 mars, par exemple. Alors, ça, c'est une activité kérigmatique.
Non, non plus, ça n'a pas été annoncé.
Je me trompe?
Non, non, je veux dire, chez nous non plus, dimanche, ça n'a pas été annoncé.
Ah, ça a été annoncé?
Non.
Ah bon, mais pour qu'on fasse un effort pour l'année prochaine. Alors, bon. Mais parce que ça, c'est intéressant, c'est typiquement quelque chose qui appartient à la tradition de l'Église. Parce qu'on ne peut pas annoncer que la date de Pâques sera toujours la même jusqu'à la fin des temps, puisque ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, chaque année, on doit proclamer cette date de Pâques et le début. Et en fait, il proclamait surtout, il dit-il dans la lettre, je ne sais pas dans quelle lettre, 125 encore, je pense, il dit que c'était surtout la proclamation du début du jeûne. Et c'était la proclamation du jeûne quadragésimal par toute la terre, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'écuménie, c'est-à-dire l'ensemble. Il appelait ça l'ensemble de la terre, en fait c'était l'Empire romain, si vous voulez, c'était quand même pas toute la terre, mais enfin... Bref, l'ensemble occupé par des chrétiens, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y avait une certaine unité quand même du calendrier pascal à l'époque, à la différence de ce qu'on nous dit. Mais donc voilà, c'était par toute la terre, et ça c'est donc un kérigme. Et la lettre 155, elle appelle également kérigmata les prières publiques de l'Église. C'est-à-dire, je vais y revenir tout à l'heure, il y a des prières, il y a des parties des prières de l'Église qui sont publiques, qui peuvent être entendues par tous, qui, non seulement parce qu'elles sont dites à haute voix, mais qu'elles sont dites à un moment où les portes de l'église sont ouvertes, ou bien parce qu'elles sont dites à l'extérieur. Par exemple, dans les grandes processions, je dirais les grandes manifestations de la vie chrétienne que nous avons, sais pas, quand on bénit une église, par exemple. C'est intéressant, justement. Vous connaissez l'office de consécration d'une église. Il y a toute une partie qui se passe à l'intérieur et qui ne doit pas être vue. Et là franchement, qu'est-ce que je vais dire ? Essayer d'être mesuré dans mes propos. Disons, je suis gêné. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis extrêmement gêné par le fait qu'on filme à ce moment-là ce qui se passe dans l'église, qu'il y ait par exemple des caméras de télévision dans le sanctuaire pour filmer la consécration de l'autel par le patriarche et par les évêques. Du point de vue de la tradition, c'est très difficile à défendre. Très 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 difficile à défendre. Ça, c'est justement ce qui est tacite, ce qui n'a pas à être inscrit ni sur une image, ni sur quoi que ce soit d'autre, mais qui est vécu par la communauté à l'intérieur d'elle-même. Et vous savez, dans le rituel de consécration de l'Église, c'est tellement vécu par tous que c'est le moment où on dit à tout le peuple, hommes, femmes, enfants, etc., d'entrer par les portes latérales du sanctuaire et de venir vénérer l'autel. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'intérieur de l'Église, ça concerne tous ceux qui sont membres de l'Église eux-mêmes. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Le patriarche ou les évêques sortent de l'Église et ils font le tour de l'Église et aux quatre points cardinaux, disons, ils disent des prières à haute voix. Donc, vous voyez bien aussi l'articulation. Mais ce qu'ils disent à l'extérieur, ça a un rapport à l'intérieur. Mais c'est simplement beaucoup plus bref, et c'est ce qui a besoin d'être connu par ceux de l'extérieur, c'est-à-dire éventuellement même des non-chrétiens qui peuvent assister, ou même des non-orthodoxes, des non-baptisés. Donc tout ce qui va être dit à l'extérieur de l'Église est du domaine kérigmatique et peut être au fond contribuer à l'information, si je veux dire, de tout le monde. Bon, et également un autre exemple, dans la lettre 251, le terme de kérigmata désigne des lettres écrites par un évêque, l'évêque Eustathe, peu importe, c'est Eustathe d'Antioche. Il a écrit des lettres pour protester contre une déposition d'évêque. Un évêque avait été déposé, je ne sais pas dans quelles circonstances, c'est extrêmement compliqué, l'histoire de l'Église. Mais bon, et ce qui est intéressant, c'est une lettre écrite par un évêque d'une grande ville pour protester contre quelque chose qui a été fait par d'autres évêques, en fait, hein, eh bien, ça s'appelle également kérigme. Pourquoi ? Parce que ça exprime la conscience de l'Église. Ça veut dire que la conscience de l'Église, eh bien, elle est pas facile à exprimer, disons, mais elle doit être exprimée par l'évêque. Alors ça, c'est assez important. Je n'avais pas mis dans mes notes, mais je pense à le dire maintenant. Il faut souligner le lien justement entre le kérigme et l'épiscopat. Ça, c'est une responsabilité qui est typiquement du rôle de l'évêque. L'évêque n'a pas seulement pour rôle d'être l'épiscopos, le surveillant, le pion de l'Église, c'est lui qui surveille ce qui se passe, pour voir tout va bien, etc. Mais il est surtout lui-même le héros de l'Église, dans le sens, c'est l'évêque, ce sont les évêques hein, qui ont proclamé autrefois, et qui sont là pour ça d'ailleurs, pour proclamer le kérigme dans la mesure où ils en discernent eux-mêmes la nécessité. C'est pour ça que là aussi, dans le contexte actuel, moi, je trouve que c'est très intéressant ce que nous vivons en ce moment en France, nous tournons vers les évêques, vers nos évêques, nos 10 évêques de France, et nous leur demandons qu'ils disent une parole en la circonstance, qu'ils écrivent une lettre au président de la République, ou qu'ils aillent devant l'Assemblée nationale s'exprimer, ou qu'ils acceptent une visite du président de la République pour présenter leurs vœux, enfin bon, mais qu'il se passe quelque chose sur le plan épiscopal et qu'il soit justement du domaine kérigmatique. Et nous avons besoin de ça, et c'est leur fonction de dire, voilà, nous, les évêques chrétiens orthodoxes, nous pensons que... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails que vous connaissez, mais c'est très très intéressant. Le kérigme est quelque chose qui est très foncièrement épiscopal. Ça ne veut pas dire que nous, fidèles comme vous êtes, ou prêtres, j'essaie d'être fidèle aussi d'ailleurs, dans la mesure du possible, ça veut pas dire que nous soyons dispensés de toute activité kérigmatique, mais ce n'est quand même pas notre ministère, mais ce n'est quand même pas notre fonction. Notre fonction, elle est plus de caractère dogmatique. Nous vivons beaucoup. Moi, je connais des prêtres, si vous voulez, qu'on n'entend jamais, qui ont passé leur vie de prêtre dans l'église, à célébrer les offices, à confesser les gens, à bénir, à baptiser, mais qu'on n'a jamais entendu en dehors des limites de l'église, et de l'église paroissiale, et du bâtiment église même. Soit parce que c'était interdit, dans certains pays que vous connaissez bien, il était interdit aux prêtres de faire la catéchèse pendant une certaine période de liberté de culte, donc il était interdit donc d'avoir une activité kérigmatique, soit parce que simplement ils ne le sentaient pas, vous voyez. Et même directement, l'idée que certains de nos prêtres, moi malheureusement aussi, sortions des limites de l'Église pour parler à la télévision, à la radio, etc., ce n'est peut-être pas notre ministère. Vous voyez. Peut-être qu'un prêtre qui fait ça sort de ses attributions. C'est plus de caractère épiscopal. Hein. Et alors, c'est pour ça que nous le faisons avec la bénédiction du métropolite. On m'a demandé hier, j'ai participé à une émission, et quelqu'un m'a dit, mais au nom de quoi est-ce que vous parlez? Quelle est votre légitimité? C'était une très très bonne question. Vous savez, je suis sûr comme Woody Allen, quand les gens posaient des questions, ils répondent toujours dans ces films. J'aime beaucoup Woody Allen, c'est un homme extrêmement intelligent, malheureusement misogyne, mon papa peut avoir toutes les qualités. Woody Allen, quand il monte un spectacle, il dit toujours aux gens, c'est très intelligent ce que vous avez dit, comme vous êtes intelligent, mais c'est remarquable, madame. On commence toujours par dire ça. Voilà comment on fait, comment ça dire aux personnes qu'elles sont très intelligentes. Voilà, donc vous voyez que la question se pose quand même, quelqu'un qui parle en dehors de... Un laïc ou un prêtre qui s'exprime en dehors de l'Église, dans un cadre public, et donc qui engage la conscience de l'Église et la responsabilité de l'Église, en fait, s'il n'a pas la bénédiction pour le faire, il ne le fait pas, vous voyez. Il ne le fait pas. Moi, comme l'apôtre Paul, je connais un prêtre qui s'est fait reprendre plusieurs fois par son métropolite, parce qu'il avait, par exemple, publié un livre... fait une conférence ou écrit un article sans demander la bénédiction. Et donc, personnellement, je fais vraiment attention à ça. J'envoie un SMS à Mgr Joseph, est-ce que vous me donnez la bénédiction pour parler à la radio tel jour? Et si je ne le fais pas, je demande pardon d'avoir omis de lui demander la bénédiction. Parce que c'est à lui qu'appartient le charisme du kérigme. Que ce soit le télé-kérigme ou le radio-kérigme à notre époque, vous voyez, peu importe le mode, mais l'esprit doit rester le même. Bon, donc ça c'est pour faire comprendre des choses pareilles. Ce qui est intéressant dans l'orthodoxie, si vous voulez, c'est l'esprit de l'orthodoxie. C'est comment ça fonctionne, comment nous sommes, comment nous existons. Alors, je reviens à mon texte du traité du Saint-Esprit, je le t'en passe quand même. Donc le texte disant, voilà, ils ont donc les uns, l'un et l'autre, c'est-à-dire le kérigme ou le dogme, c'est-à-dire ce qui est affirmé ou ce qui est tacite, a la même force, voilà, tous ont la même force au regard de la piété, nul n'en disconviendra s'il attend soit peu l'expérience des institutions, ils ont traduit institutions ecclésiastiques, des institutions ecclésiales en fait. Ceux qui savent comment fonctionne l'Église savent que et le dogme et le kérigme ont même force. Il dit au regard de la piété. J'avais commenté un peu ce mot-là l'autre jour, le terme de piété, evsevia en grec, ou pietas en latin, mais evsevia, c'est un mot qui est très important, qui est le mot qui englobe en fait toutes les dimensions de la connaissance et de la vie. C'est pour ça que Saint Basile s'y rapporte toujours. Il dit le dogme est lié à l'evsevia, le kérigme également. C'est l'evsevia qui est là, au fond, la norme de la vérité pour l'un et pour l'autre. Ensuite, il continue en disant, car si nous essayons d'écarter les coutumes non écrites comme n'ayant pas grande force, nous porterions atteinte à notre insu à l'Évangile sur les points essentiels eux-mêmes. Donc oui, c'est que ça va être bien conscient que l'Évangile est la partie émergée de toute une tradition apostolique réelle et vivante. Donc si on écarte ce qui n'est pas écrit, on va écarter en fait ce qui est la vie de l'Évangile lui-même. C'est assez important. Vous voyez. Donc ici, il y a un préjugé que connaît probablement Saint Basile, qui existait à toutes les époques. C'est assez vieux comme préjugé. L'idée que ce qui est écrit, au fond, ce qui n'est pas écrit, n'existe pas. J'ai fait allusion tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment une façon de penser très, très, très étrangère à la tradition, pas seulement chrétienne, mais même antique. Oui. Platon, j'aime beaucoup Platon, je pense à un homme extraordinaire. Platon est même sévère à l'égard de l'écrit. Il considère que le jour où on commence à mettre la réalité par écrit, c'est qu'on ne la vit plus. C'est-à-dire le passage de l'oralité à l'écriture est un événement tellement grave qu'il faut bien être conscient de ce qu'on fait. C'est le cas des textes bibliques. C'est, tout le monde sait, je pense, les trois quarts des textes bibliques ont été des textes transmis oralement et qu'on connaît la date de leur mise par écrit. C'est-à-dire les gens qui disent « Oh, mais tel livre de la Genèse, il ne date que de telle année. » Attends, de quoi parles-tu? Sa transcription de telle année. Mais tout ça a été mémorisé et transmis, comment dire, oralement. Les psaumes aussi, tout a été transmis oralement. Donc, l'attitude qui est la nôtre, qui est la mienne, en tout cas aussi, et je prends l'attitude des pères orthodoxes, consiste à dire, ce qu'on met par écrit, on le fait par nécessité, mais ça n'épuise pas donc la révélation. Et il dit, et si nous méprisions, je résume, si nous méprisions ce qui n'est pas écrit, nous transformerions la définition, le kérigme, en un simple nom. C'est-à-dire que c'est assez important ce qu'il dit là. Il veut dire que le kérigme, privé de sa profondeur immergée et tacite, ne devient plus qu'un mot, une formule dogmatique. Ça peut conduire à un effet de dessèchement, vous voyez, de la doctrine. Voilà, on se bat pour des mots, on ne se comprend plus aussi. C'est le vrai problème posé par le dialogue entre chrétiens, ce qu'on appelle le dialogue œcuménique actuellement. C'est une situation est presque insoluble, parce que les discussions qu'on a, le dialogue panthéologique entre orthodoxes et catholiques, si vous voulez, il est presque infaisable, parce que nous ne vivons pas de la même façon et dans la même communauté. Il faudrait déjà immerger dans le même bain pour pouvoir connaître le sens des mots que nous employons les uns à l'égard des autres, avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait la seule solution à la question posée par l'œcuménie, la seule solution, c'est d'entrer en communion les uns avec les autres. Entrer en communion, rejoignez la communion de l'Église, et après ça, on va pouvoir parler. Mais si on met comme préalable la discussion sur les mots, c'est-à-dire sur le kérigme réduit à l'état de simple formule, au fond, ce sont des discussions sans fin. Ah bon, ça, je ne veux pas être pessimiste non plus. Par exemple, il continue, pour rappeler ce qui vient en tout premier lieu et dont l'usage est si commun. J'ai mis une note. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, il va parler là de ce qu'on appelait l'initiation chrétienne, c'est-à-dire la célébration du baptême, de l'onction du Saint-Crème et de la communion eucharistique. Donc, pour rappeler ce qui vient en tout premier lieu et dont l'usage est si commun, qui nous a enseigné par écrit à marquer du signe de la croix ceux qui espèrent de notre Seigneur Jésus-Christ? Ce rite-là du signe de la croix, c'est l'admission des catéchumènes. Nous le faisons, on l'a fait récemment pour le bébé qu'on a baptisé. Donc celui qui va être baptisé, au moment de son inscription au rang des catéchumènes, eh bien il est signé de la croix par le prêtre ou par l'évêque, mieux. Ah bon, en l'absence d'évêque, par le prêtre, il est signé du signe de la croix sur le front, sur les lèvres et sur le cœur, je crois, trois fois. Donc ça, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part, mais on l'a toujours fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on a toujours. Ah, maintenant, c'est écrit parce que c'est publié dans un petit bouquin plus ou moins bien traduit. Mais ça, c'est pareil, c'est postérieur. Et le fait qu'il y ait une édition du texte du Saint Baptême, ça n'a pas de valeur particulière. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, parce que du coup, on perd une certaine souplesse dans la célébration. On est là à chercher les pages, page 68, page 66. Bon, on enlève ses lunettes, on est avec des bouquins partout. Mais la vie de l'Église, c'était pas ça. C'était des choses que les gens faisaient parce qu'on les avait toujours faites, qu'ils les avaient fait faire aux anciens, qu'ils les avaient apprises avec d'autres. Voilà, il donne cet exemple-là. Ensuite, quelle écriture nous a appris à nous tourner vers l'Orient pendant la prière? Où est-ce que c'est écrit ça? Eh bien, nulle part. Nulle part. Et pourtant, les chrétiens l'ont toujours fait. Et on le sait par la vie des saints ascètes. Qu'est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'était Saint Siméon ou quelqu'un comme ça? Enfin, quelqu'un de très bien. Un ancien, il se mettait en prière. C'est assez extraordinaire. Il se mettait en prière. Oui, il se mettait en prière face à l'Orient, mais au moment du coucher du soleil. Donc, il se tournait vers la... Oui, c'est ça, il se tournait vers la nuit et le soleil se couchait dans son dos. Voilà. Et il restait en prière toute la nuit. Ça, c'est son, je sais, ça n'engage que lui. Il le faisait ça peut-être pendant l'été, quand les jours sont beaucoup plus longs, les nuits beaucoup plus courtes, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il le faisait en hiver. Enfin, bref, il restait en prière toute la nuit, les mains levées, ou prosternées, je ne sais pas, jusqu'à ce que le soleil se lève devant lui. Donc ça, on sait ça par les vies des saints, qui priaient, tournés vers l'Orient. C'est extraordinaire. Et alors, on a dit que c'était fait pour se distinguer des Juifs, qui prient tournés vers Jérusalem, ou pour se distinguer des musulmans qui prient tournés vers la Mecque. Bon, on peut dire ça si on veut, mais je crois que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les chrétiens ont prié tournés vers l'Orient bien avant l'arrivée de l'islam, beaucoup plus ancien que le VIe siècle. Et ils ne l'ont pas fait dans un sens polémique pour faire quelque chose contre les Juifs. Ce n'est pas spécialement intelligent de faire ça. Non, non, ils l'ont fait parce qu'il y avait un symbolisme profond, il y a un symbolisme profond dans le fait de prier tournés vers l'Orient, qui est le symbole même du Christ qui ressuscite. Et vous savez que toutes nos églises sont construites en principe de cette façon-là. En français, il y a une expression, on dit que les églises sont orientées. Orientées, c'est-à-dire qu'elles sont construites face à l'Orient. Ça se voit même, certaines églises de campagne en France sont encore comme ça. Bon. Donc ça, alors, mais Saint-Basile dit, ça, c'est écrit nulle part. Voilà quelque chose qui n'est pas du tout du domaine charismatique, qui est du domaine dogmatique au sens que c'est la vie tacite, la vérité tacite de l'Église. Je continue. Alors ça, vous allez voir, c'est plus grave. Encore, parce que c'est déjà très important, il dit, les paroles, alors tenez-vous bien, attachez vos sièges, les paroles de l'épiclèse au moment de la consécration du pain eucharistique et de la coupe de bénédiction, quel saint nous les a laissées par écrit? Alors ça, c'est très 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 important, cette question-là. Vous savez que la parole, je vous cite le texte de l'épiclèse dans l'Épiclèse selon saint Basile, le prêtre dit, Mysticos, justement, nous te demandons et nous te prions, Seigneur bon qui aime les hommes, nous tes serviteurs pécheurs et indignes, et nous t'adorons, prosternés devant le bon vouloir de ta volonté, de ta bonté, que vienne ton Esprit Saint sur nous, tes serviteurs, et sur ces dons de toi que voici, qu'il les sanctifie et les consacre saints des saints. Donc ça c'est la prière de l'épiclèse que nous connaissons, que nous entendons, que nous n'entendons pas. Et vous voyez justement, dire que là, c'est une petite parenthèse, le débat souvent entendu dans notre église orthodoxe sur est-ce qu'il faut dire les prières à haute voix ou pas les dire à haute voix, ça tourne un petit peu autour de cette question-là. Vous avez certains orthodoxes qui sont farouchement opposés à ce qu'on dise les prières à haute voix. Et ça se justifie un petit peu par cela. Et puis d'autres qui disent si, il faut que les prières soient dites à haute voix parce que le peuple doit participer. Mais je pense qu'ils ont un petit peu raison, je vais y revenir tout à l'heure. De toute façon, au moment de la profération, parce que ce n'est pas la lecture, c'était normalement la récitation orale du canon eucharistique, il n'y a dans l'Église que des orthodoxes, que des baptisés, que des personnes qui communient. Parce que tous sont partis quand on a dit que les catéchumènes sortent, etc. Donc à ce moment-là, effectivement, les prières peuvent être dites à voix haute, parce que tous ceux qui sont là sont habilités à les entendre. Et donc la question est quand même, je trouve que le débat est quand même intéressant, bien qu'on ne sache pas toujours pourquoi on discute de ça. Vous voyez, donc la question, ça c'est une question qui est extrêmement importante justement du point de vue de l'universalité du christianisme. Que le fait que ces prières n'aient pas été écrites, qu'elles étaient mémorisées, improvisées en quelque sorte, mais improvisées suivant probablement une tradition de l'improvisation, et le fait donc qu'elles manquent dans les manuscrits, eh bien ça a autorisé une civilisation comme la civilisation de l'Occident chrétien à les omettre. La disparition des prières d'Épiclèse en Europe occidentale, l'absence, ne nous permet absolument pas de penser que les anciens comme Saint-Hilaire de Poitiers ou Saint-Martin n'avaient pas de prière d'Épiclèse. Au contraire, je parlais de Saint-Martin juste après. Au contraire, mais simplement, on ne les écrivait pas. On ne les écrivait pas. Justement, on sait par la vie de Saint-Martin qu'il disait une prière d'Épiclèse. C'est raconté par Saint-Venance Fortuna dans sa vie. Et quand il offrait l'oblation, il est arrivé, en tout cas une fois, un feu descendait vraiment sur l'autel. Donc c'est resté dans les hymnes qu'on chante en l'honneur de Saint Martin. Alors, ça veut dire qu'il y avait effectivement une invocation du Saint-Esprit comme telle, après les paroles de l'institution eucharistique. Mais ça, ce n'est écrit dans aucun manuscrit. Sous prétexte que ce n'est pas écrit dans un manuscrit, on va dire que ça n'existe pas. Mais ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris comment ça marche, vous voyez. C'est assez important, cette question-là.
Chez les catholiques latins, non, elle n'existe pas.
Ben, ça a dû exister. Ils ont, à un moment de Vatican II, dans la réforme liturgique qu'ils ont faite, ils ont réintroduit une forme d'épiglèse, mais qui est placée, elle est placée avant. Vous voyez pas, donc, de toute façon, elle n'est pas à sa place traditionnelle. La place traditionnelle de l'épiclèse, c'est en fait le mystère de la Pentecôte, c'est-à-dire après le mystère du Christ, qui est signifié par les paroles de l'institution, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Après cela, vient la Pentecôte, c'est-à-dire la descente du feu du Saint-Esprit sur ceux qui croient, etc. Et qui est en fait le terme de l'oblation. Après ça, on se prosterne, après ça, c'est ce qu'on appelle la post-épiclèse, mais c'est. La liturgie est finie pratiquement, sauf qu'il y a la communion eucharistique évidemment après. Hein, mais donc ça, c'est très. Or ça, ce n'est c'est écrit nulle part. Et donc c'est extrêmement important parce que si on se fonde uniquement sur des choses écrites, on ne s'en sort pas, voyez. Donc on est presque obligé d'appartenir à la tradition. On est obligé d'appartenir à l'Église pour avoir des éléments supplémentaires. Cela dit, même dans l'Église orthodoxe, l'Église des Pères, ben nous savons très bien que ben finalement, un jour ou l'autre, on a mis ces choses-là par écrit, on les a transcrites, éditées. Et moi, c'est ce que je pense, ce qu'on appelle la liturgie selon Saint Jean Chrysostome, ou selon Saint Basile. Je pense qu'il faut être quand même sage. Saint Basile n'a pas écrit avec un beau porte-plume qu'il avait reçu à Noël la liturgie de Saint Basile, la liturgie qu'on lui attribue, vous voyez. Saint Jean Chrysostome non plus. Non, c'est qu'il y avait, je pense qu'il y avait une tradition liturgique orale fondée beaucoup sur la mémorisation des paroles et beaucoup sur l'improvisation, beaucoup, hein. L'improvisation, mais une improvisation qui se faisait dans le cadre de la tradition. Tout ceci existait et qu'à un moment, effectivement, Saint Basile ou Saint Jean Chrysostome ont autorisé, ont donné la bénédiction pour qu'on transcrive. Et on a transcrit. Bon, approximativement, ce qu'ils avaient l'habitude de dire et qu'on entendait dire par eux. C'est très, très intéressant. Mais en fait, ces personnes-là étaient. Je pense qu'ils étaient capables de célébrer sans aucun livre. Non seulement parce qu'ils connaissaient par cœur, certes, mais parce qu'ils étaient capables d'improviser des prières qui étaient dans la justesse de la foi. Imaginez ça. Imaginez que, je sais pas, passe à un cataclysme, vous connaissez sur une île déserte, on n'a pas de livre liturgique, on n'a rien, ben on va quand même célébrer la liturgie. On ne va quand même pas dire, ah ben non, on n'a pas les livres, on ne peut pas célébrer. Bon, vous rendez compte. Donc on doit pouvoir être capable de célébrer, mais est-ce que nous sommes capables? Quel évêque parmi nous, quel prêtre parmi nous, quel fidèle parmi nous est capable de célébrer la divine liturgie de mémoire, de cœur? Et d'improviser juste avec justesse. Et d'improviser avec justesse les parties dont il ne se souviendrait pas exactement. Et pourtant, c'est ça, oui, dont on parle. C'est assez extraordinaire. Cela dit, mais je connais quand même des prêtres meilleurs que moi, et des évêques, qui connaissent par cœur. Bon, Mgr Joseph, par exemple, Mgr Joseph connaît par cœur le canon eucharistique. Il le connaît par cœur en roumain, et en plus, il le connaît par cœur en français. Donc, il est tout à fait capable. Si son livre est fermé ou tombé par terre, ou oublié ou pas ouvert à la bonne page, de continuer la célébration. Mais ça c'est un évêque normal, si vous voulez. Oui, on va continuer en fait. Hein. Donc, mais ça j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est tout à fait fondamental et que ça a été une pierre d'achoppement, épiclèse ou pas épiclèse. Voilà. Ensuite, nous ne nous contentons pas des paroles. Par l'apôtre et l'évangile. Quand on dit l'apôtre, c'est la lecture de l'épître. Hein. Nous ne nous contentons pas des paroles par l'apôtre et l'évangile. Avant et après, nous en prononçons d'autres. Et elles, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont reçues. Et ça, vraiment, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Nous en prononçons d'autres reçues de l'enseignement non écrit. Parce qu'elles ont une grande importance pour le mystère. Donc, je ne sais pas, je pense à la prière qui est dite avant la lecture de l'évangile. Quand on dit à haute voix, bon, cette prière-là, elle, elle, elle appartient à la tradition non écrite. Et on l'a dit parce qu'elle est importante, comme il dit, est une grande importance pour le mystère. Toutes les prières, c'est-à-dire que toutes les prières qui sont dites dans la première partie de la Divine Liturgie, c'est-à-dire les trois prières qui sont dites à la suite des litanies, la grande litanie, les deux petites litanies qui suivent, ces prières-là entrent dans cette définition-là, c'est des choses, des prières non écrites, qui ont été finalement conservées, et qu'on dit quand même, bien qu'il n'y ait aucun canon qui dit il faut dire ça, mais parce qu'elles sont, comme il dit, elles sont d'une grande importance pour le mystère. Et donc on les dit avant l'apôtre, qui lui est écrit, les lettres de saint Paul étaient même écrites, et l'évangile qui est quand même mis par écrit. D'accord ? Nous bénissons, je continue parce que ça m'intéresse beaucoup, nous bénissons aussi l'eau du baptême. Ça, vous avez certainement remarqué ça dimanche. L'huile de l'onction, il s'agit de l'onction de l'huile de l'onction des catéchumènes. Et en outre, nous bénissons le baptisé lui-même. En vertu de quels écrits ? Ah pas. Et il répond lui-même à la question, n'est-ce pas la tradition gardée secrète et cachée ? Donc toutes ces pratiques de la liturgie eucharistique à laquelle nous faisons allusion et du Saint-Baptême, pour lui, ça appartient à la tradition tacite de l'Église. Vous voyez, ça n'a fait l'objet d'aucune déclaration conciliaire, d'aucune promulgation des évêques. Et ça serait intéressant, là je ne l'ai pas fait, ce serait intéressant de regarder dans les canons des conciles œcuméniques, est-ce qu'il y a des canons qui se rapportent aux usages liturgiques ? Je n'ai pas ça en tête présentement. Il y a des canons qui se rapportent effectivement à la doctrine, il y a des canons qui se rapportent aux mœurs, au comportement des chrétiens. Maintenant, est-ce qu'il y a des canons qui se rapportent à la célébration liturgique ? Peut-être pas, justement. Parce que ce n'était pas nécessaire, puis c'était vécu. D'accord ? Ensuite, la triple immersion. La triple immersion qui me paraît tellement importante dans un baptême. D'où vient-elle ? D'où vient-elle ? Où est-ce qu'elle est écrite ? Non plus. Tradition orale. Et tout ce qui entoure le baptême. La renonciation à Satan et à ses anges. De quelle écriture cela vient-il ? Il n'y a pas. Et il répond... N'est-ce point de l'enseignement tenu privé et secret que nos pères gardèrent dans un silence exempt d'inquiétude et de curiosité, sachant bien qu'en se taisant, on sauvegarde le caractère sacré des mystères, car ce qui n'est pas permis aux non-initiés de contempler, comment serait-il raisonnable d'en divulguer par écrit l'enseignement ? Alors, il y a un mot qui est important, vous comprenez l'esprit de la phrase, il y a un mot qui est important aussi, qui est le terme « divulguer ». Pour le kérigme correspond à la divulgation, pas forcément dans un mauvais sens, vous voyez. C'est du domaine de la divulgation de ce qu'on dit à l'extérieur. Alors je reviens un petit peu sur quelques mots ici. Oui, le commentaire de ça, c'est que le mot kérigmata ou kérigme, relevant du ressort public, est connu de tous sans exception. C'est du genre, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. En revanche, dogma peut rester ignoré, du moins en partie, du grand nombre. Alors, le grand nombre, ça veut dire quoi ? Je ne pense pas que ça désigne le grand nombre des fidèles. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a, suivant la conception patristique, dans l'Église, des personnes qui viennent à l'Église régulièrement et qui sont au courant de rien ou de pas grand-chose de ce qui se dit, ce qui se fait. Ça, je ne pense pas que ça veut dire ça. Le grand nombre, ça désigne le grand nombre des gens qui habitent la ville, par exemple Antioche ou Constantinople, et ce grand nombre n'est pas forcément chrétien. Vous voyez, le nombre des chrétiens dans les grandes villes de l'Antiquité, c'est souvent un nombre très très minoritaire. Donc le grand nombre, ce sont des gens qui circulent autour, qui sont des gens bienveillants, mais qui sont autre chose, païens, ou la communauté juive, je ne sais pas, qu'il pouvait y avoir d'autres, enfin bon, donc en tout cas des personnes non chrétiennes. Voyez, et donc ça, le dogma peut rester ignoré, du moins en partie, de ce grand nombre. Alors, il peut y avoir qu'il y ait des personnes, des non-chrétiens, qui ne sachent pas que nous glorifions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas grave. Alors, vraiment, ce qui est extrêmement grave, c'est que les chrétiens eux-mêmes l'ignorent, vous voyez. Même la catéchèse, comme savoir ce que c'était que la catéchèse dans l'Antiquité chrétienne, c'était exclusivement presque une catéchèse liée à la célébration des mystères. Saint Cyril de Jérusalem qui parle de ça. Il parle de catéchèse baptismale et de catéchèse mystagogique. Les catéchèses baptismales, c'est un enseignement doctrinal donné par l'évêque, principalement, les prêtres aussi, mais principalement l'évêque. L'Église ancienne est très 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 épiscopale. Là, les prêtres ne faisaient pas grand chose, les diacres pas grand chose. Enfin, c'était l'évêque qui faisait tout. Donc l'évêque enseignait les gens qui se préparaient au baptême. Mais les catéchèses n'étaient pas pour tout le monde, vous voyez. Il n'y avait pas de gens non chrétiens qui assistaient à des catéchèses. Les catéchèses n'étaient pas publiées sur Apostolia TV. Non, ça n'a pas existé. C'était strictement fait dans le cadre d'une action liturgique ou en vue d'une action sacramentelle interne. Et après ça, ce qu'on appelle les catéchèses, que Cyril de Jérusalem appelle les catéchèses mystagogiques, étaient strictement destinées et donc réservées aux personnes qui venaient de recevoir le baptême. Et ça, c'est quand même assez important. C'est toujours l'idée qu'on ne peut pas comprendre la doctrine chrétienne si on n'est pas dans la vie chrétienne. Et en particulier, si on n'a pas la participation au Saint-Esprit. Le problème, il est là, c'est que tout le monde peut acheter à la procure ou n'importe où la liturgie de Saint-Chrysostome, les écrits d'un tel, les écrits de tel père, et puis les lire chez lui. Mais n'étant pas dans l'Église, ne vivant pas dans l'Église, et ne participant pas à la grâce du Saint-Esprit, et ces textes-là ne peuvent pas lui dire grand-chose. Je cite toujours mon propre exemple, à une époque de ma vie, avant d'entrer dans la communion de l'Église orthodoxe, donc ça représente quelques années maintenant, je fréquentais, étant étudiant, des amis très 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 gentils qui m'ont beaucoup aidé, au fond, à découvrir la tradition, et souvent ils avaient lu tout, ils étaient très très instruits, ils avaient lu, je sais pas, les sources chrétiennes, Paul Evdokimov, tout ce qu'il fallait avoir lu. C'était étonnant, ils étaient vraiment très 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 instruits, ils connaissaient. Bon. Et aucune de ces personnes-là n'est devenue orthodoxe. Aucune. C'est étonnant, hein. Il y a qu'en fait la lecture qu'ils avaient, la connaissance qu'ils avaient, donc quand même, on va dire, de l'orthodoxie, entre guillemets, qui ne connaissait strictement l'ivresse, mais ça n'allait pas plus loin que ça, vous voyez, c'est quand même très très important. Donc c'est ça aussi qu'on veut dire ici, c'est que même une entre guillemets vérité sortie de son contexte ecclésial, sortie de son contexte de vie, et de vie du Saint-Esprit, c'est comme les poissons quand on les sort de l'eau, vous savez, ça reste pas très longtemps vivant finalement un poisson, ça dépend des espèces. Il y a des espèces mieux adaptées que d'autres. En principe, un poisson sorti de l'eau meurt. Donc, oui, voilà. Et justement, ça c'est une parenthèse. C'est pour ça que nous avons bonne conscience de manger du poisson, même en carême, parce que nous n'avons pas versé le sang. Moi, je ne l'ai pas tué, le poisson, il est mort. Je ne l'ai pas tué. Alors que je ne mange pas des bêtes que j'aurais tuées, parce que je ne peux pas manger quelque chose dont j'aurais interrompu la vie. Mais le poisson, il est mort tout seul. Donc, mais la vérité, c'est la même chose. Si on la sort de l'eau de l'Église, elle meurt. On peut faire toutes les collections patristiques qu'on veut, les mignes, ça ne nous donnera pas la vie. Ça ne donnera pas la vie éternelle. Par des gens très 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 instruits. En France, il y a des gens extrêmement instruits, des professeurs, des universitaires qui font des thèses, des bouquins, etc. Ils ne vivent pas, ils ne disent pas leur prière le matin, ils ne se prosternent pas, ils ne vénèrent pas les icônes, ils ne jeûnent pas, ils ne confessent pas leurs péchés.
Mais ils ne sont pas devenus orthodoxes parce qu'ils ne l'ont pas demandé non plus, ou parce qu'on ne les a pas reçus peut-être.
Ah non, ils n'en voyaient pas la nécessité, ils avaient tout compris. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Voilà, ils avaient tout compris.
Manque d'humilité.
Si, à partir du moment où la compréhension intellectuelle est la norme de la connaissance, une fois que vous avez tout compris, vous n'avez plus besoin du reste. À quoi ça sert, à quoi l'Église, puisque j'ai tout compris?
Il faut être attaché quand même à une...
Oui, ça on peut expliquer ça, mais enfin, là en l'occurrence, mes amis, ça leur posait pas de problème. D'une certaine façon, ils en savaient beaucoup plus sur l'orthodoxie que moi-même, mais ils n'étaient pas dans le bain. Ils n'étaient pas dans le bain, ils y sont toujours pas. Je vais regarder si c'est un message dogmatique. Je vois pas très bien. Non, ça n'a pas l'air d'avoir une relation avec le propos. Par contre, vous avez peut-être l'impression que j'insiste lourdement pour renforcer des portes ouvertes, mais je trouve que c'est très très important.
C'est
en important pour nous aujourd'hui, pour comprendre beaucoup de nos fonctionnements et la difficulté que nous avons quelquefois à avoir ce dialogue avec des personnes qui ne sont pas orthodoxes et pourtant sont de bonne foi, sont des bons chrétiens, sont meilleurs que nous. Parce que, ah oui, ben, si tu ne vis pas dans l'Église, tu ne sors à rien. Tu ne sors à rien, oui. Alors, donc, il faut savoir, par exemple, que les non-baptisés n'avaient pas le droit de recevoir ces dogmes. Ils n'avaient pas le droit de lire un texte se rapportant à la catéchèse de la foi. Oui. Les baptisés n'avaient pas le droit d'en parler. Oui. Et pas la bénédiction pour en parler, ni devant les païens, ça peut se comprendre, ni devant les catéchumènes. Pas la bénédiction pour parler de la foi à un catéchumène, à moins que l'évêque ait demandé de faire la catéchèse, disons. Et il n'en parlait ni en privé, ni en public. C'est vraiment très, très, très strict. Pour laisser la formulation de la vérité, lui garder tout son caractère vivant, intégré à l'expérience sacramentelle elle-même. C'est vraiment intéressant. Hein, alors, on a beaucoup, ça a été beaucoup critiqué, ça a dit, oui, voilà, c'est une influence des mystères antiques. Et je crois que ça, c'est encore une vision très intellectuelle du sujet. C'est ne pas comprendre ce qu'est le mystère de l'Église. À mon avis. Et donc, ça, c'est le dogme. Hein, je reviens donc finalement sur la partie dogme, parce qu'on ne peut pas parler du kérigme sans parler du dogme. Donc le dogme, c'est effectivement ce dont on ne parle pas à un païen ou à un catéchumène et après à un non-baptisé. On n'en parle pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas le moment, et ce n'est pas le lieu. Moi, je me rappelle d'avoir été repris par... on s'est dit histoire à moi, si vous voulez, mais ça fait comprendre un petit peu. On était très, très jeunes, enfin, beaucoup plus jeunes encore que nous le sommes aujourd'hui, comme j'aime dire. Nous avions été au monastère en Angleterre, à l'époque où Père Sophronie, le bienheureuse mémoire, non seulement était vivant, mais était assez en forme. Enfin, il n'était pas très âgé, d'ailleurs. Non, il y a une trentaine d'années de ça, et je me rappelle, c'était à l'époque où on mangeait tous ensemble, le monastère était tout petit, tout le monde mangeait dans la cuisine, à table, comme ça, c'était très très familial. Et moi, très jeune, néophyte, orthodoxe, etc., je me posais des questions, j'avais dit au Père Sophronie, mais qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et Père Sophronie m'avait repris devant tout le monde à table, hein, en me disant, ce n'est pas le moment. Pourtant, mes questions étaient des très bonnes questions, très intéressantes. Ce n'est pas le moment. On ne parle pas à table, hein, du dogme de la Trinité. Ça ne se passe pas à table. On parlera tout à l'heure, on priera d'abord, on tournera vers l'icône, les saints des enfants. Mais on ne parle pas de tout le temps, à tout le monde et n'importe quand. Parce que c'est pas par purisme, si vous voulez, mais c'est parce que les conditions spirituelles, charismatiques, ne sont pas réunies. Vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez, j'espère que c'est à peu près clair, parce que j'ai tellement insisté sur le truc. Bon, alors je voudrais résumer un peu, puisqu'on va arriver, il reste 10 minutes, sur cette question du kérigme. Donc, j'ai remis un peu les principaux points, tels qu'on les trouve dans un petit travail qui pour moi est absolument essentiel, qui s'appelle le dictionnaire de Lampe. C'est L-A-M-P-E. Alors, avec un nom comme ça, vous pouvez penser que ce dictionnaire n'a plus qu'éclairé toute la... mon travail, j'ai travaillé avec ce dictionnaire, c'est énorme, c'est en anglais, c'est le Greek Patristic Lexicon. Alors c'est un énorme dictionnaire, et donc on prend un mot comme ça, on cherche le mot, on a des listes, des citations des pères, c'est absolument extraordinaire. Malheureusement, il s'arrête à Saint-Laudamassène, il ne va pas au-delà, alors que tout le monde sait, je pense ici, que la tradition patristique a continué bien après Saint-Laudamassène. Bon, bref, donc justement, dans ce monsieur Lampe, donc, donne pour kérigme un petit peu cette liste que je vous redonne, qui correspond à ce que j'ai fait depuis le début. D'abord, ça désigne la prédication, et dans prédication, on inclut proclamation. Et dans proclamation, on inclut principalement la proclamation de l'Évangile. Ça, c'est assez important. La première activité kérigmatique des chrétiens, c'est la proclamation de l'Évangile. Par qui? Mais d'abord par le Christ. Comme ça, je l'avais dit la dernière fois, le premier héros, le premier Kyrix, c'est le Christ lui-même, qu'il est le héros de sa propre vérité, l'héros du Père, mais il est le héros de lui-même. Et c'est pour ça qu'on lui pose la question dans l'Évangile, de qui dis-tu cela? De toi-même ou d'un autre? C'est-à-dire, de qui es-tu le héros? C'est une très très bonne question. Donc, proclamation de l'Évangile par le Christ et par les apôtres et leurs successeurs. C'est-à-dire, l'activité kérigmatique, elle est celle du Christ, et elle est celle de la succession apostolique. Ce qu'on appelle succession apostolique, c'est une succession d'évêques qui, à travers le temps, sont fidèles à cette activité-là, donc qui est proprement apostolique. D'accord? Donc ça définit beaucoup l'Église. Au fond, l'Église se définit pas uniquement, hein, mais en bonne partie comme un corps, une assemblée, une institution divino-humaine, si vous voulez, de nature kérigmatique, qui proclame et elle prêche. Ensuite, le mot kérigme désigne quelquefois le sujet de la prédication même. C'est pour ça que la foi, par exemple, peut s'appeler kérigme. Le kérigme, c'est pas seulement l'annonce de la foi, mais c'est la foi elle-même, d'accord? Et il désigne, dans le même esprit, il désigne le contenu de la prédication apostolique, prêchée par le Christ et prêchée par l'Église. Donc il désigne à la fois le contenu et la proclamation du contenu. Le mot peut désigner l'ensemble de la tradition apostolique prise comme telle. C'est-à-dire, donc là, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, la succession, la cohérence, le caractère ininterrompu de la tradition, c'est ça qui lui donne sa force kérigmatique également, vous voyez. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que dans les ruptures de communion, c'est important, des évêques qui ont rompu la communion les uns avec les autres à telle ou telle époque, c'est pas seulement une rupture dans le domaine canonique, hein. Encore que c'est grave, évidemment, canoniquement, c'est que presque juridiquement. Mais quand ça correspond à une rupture dans le domaine kérigmatique, c'est gravissime. Et ça se voit, malheureusement. Quand des évêques qui sont hors de la communion de l'Église depuis des siècles enseignent autre chose qu'enseignaient les saints-pères, on voit bien qu'il y a eu rupture kérigmatique. Alors, je fais un peu attention à ce que je dis, pour ne pas être désagréable. Enfin, je pense à ce que dit saint Irénée. Parmi, mettons les pieds dans le plat, après tout, on ne se reverra pas, peut-être, jamais. Saint Irénée dit, le critère de la tradition apostolique, c'est d'être en communion avec le siège de Rome. Parce que c'est là que Saint Paul et Saint Pierre ont été martyrisés, etc. Bon, mais les orthodoxes sont tout à fait d'accord avec ça, personne ne nie ça. Mais à condition que ce siège enseigne ce que les pères ont toujours enseigné. Et à partir du moment où il n'enseigne pas de cette façon-là, il y a rupture kérigmatique, et le critère de la référence normative de communion avec ce siège ne peut plus jouer. Il ne peut plus jouer. Donc ça, c'est quelque chose de gravissime, si vous voulez, du point de vue de l'unité de l'Église. Même s'il y a eu succession, même s'ils ont été, leurs évêques ont été ordonnés par d'autres évêques légitimes, ça, c'est une vision complètement juridique de la succession apostolique. C'est pas une vision théologique, vraiment ecclésiale. Il y a rupture dans le kérigme. Et donc le problème de l'œcuménisme à notre époque, c'est vrai qu'il y a un problème très, très 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 important, il est lié à cela aussi. Au fait que l'enseignement n'est pas le même. L'enseignement n'est pas le même. Et j'ai vu sur le site Sagesse Orthodoxe dont nous occupons, personne qui nous a écrit à la suite d'un article que nous avons publié sur la Mère de Dieu, en parlant de la triple virginité de la Mère de Dieu. La personne a écrit en disant « Oui, mais ce que vous dites là, je ne sais pas si c'est vraiment continuer à dire ça, parce que si on dit ça, les protestants ne vont pas être contents. » Et je suis obligé, elle me dit « Mais moi, pour moi, la Vierge, bon voilà, c'était une âme pure, voilà, c'est une personne d'une grande pureté d'âme. Bon. » Donc je n'ai pas répondu, mais je suis obligé de répondre à cette personne, parce que ce qu'elle dit là, ce n'est déjà plus le christianisme. Et pourtant, c'est une bonne catholique, elle a fait des études, et donc elle enseigne aux autres probablement, mais là il y a rupture kérigmatique parce que nous n'annonçons pas la même chose, vous voyez. Non. Et ça c'est désolant parce que c'est pas plus par quel bout prendre le sujet, mais en fait c'est de ça dont on doit parler dans le dialogue entre les uns et les autres. On doit arriver à ça. Nous les orthodoxes, nous mettons beaucoup l'accent sur, on dit toujours ça, l'unité de foi. L'autre jour, dans une réunion où nous étions ensemble, les gens me disent, mais l'unité des chrétiens, ah oui, mais quelle unité? C'est pas n'importe quoi, l'unité chrétienne. L'unité chrétienne, ça ne peut pas être autre chose que l'unité de foi et l'unité dans la proclamation de la foi. Ben, Et là, il n'y a pas. 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 Vous allez me dire, oui, mais les gens simples ne s'occupent pas de vos questions. Oui, alors, quand ce n'est pas uniquement une rupture dans l'unité de la foi, mais c'est aussi une rupture dans l'unité du culte, alors ça, même des gens qui ne savent pas lire et écrire le voient, vous voyez. Quand on ne jeûne plus, quand on ne se confesse plus, quand on diminue les prières une toute petite, quand on tourne l'autel pour que ça soit dans notre sens, je sais pas quoi, bah, même sans savoir lire et écrire, on voit bien qu'il y a rupture de la tradition, quand même. Donc là, le kering s'identifie à la notion de tradition elle-même, de même que l'Église s'identifie à la notion de tradition. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Je me rappelle une discussion avec des orthodoxes un peu modernistes qui niaient ça. Ben, l'opinion des pères, c'est que l'Église s'identifie à la tradition. L'Église est tradition par essence, par nature. Elle est ce grand corps du Christ, quand même, qui transmet la vie du Christ aussi, c'est-à-dire la vie du Saint-Esprit, de l'Esprit, qu'on appelle aussi Esprit du Christ. Non pas qu'il soit issu de lui, mais parce qu'il nous vient par lui, il nous vient directement du Père, comme vous savez, il nous vient aussi par lui quand il souffle. Donc ça, c'était ça. Alors donc, la tradition apostolique, et également les articles de foi. Par exemple, le symbole de foi, ça c'est du domaine kérigmatique, quand même, bien que c'est très nettement dogmatique, c'est lié à la catéchèse baptismale qui était mémorisée par les baptisés, il devrait être dit par cœur, et non pas lu comme on le fait. On peut lire aux gens, il y a un nonne, ça, dans l'église, ou qui disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est triste de voir ça quelquefois. Je ne suis pas sûr que nous faisons bien. On devrait dire aux personnes, vous voulez être baptisé, apprenez le symbole par cœur, vous m'envoyez un SMS quand vous le savez par cœur, vous me prévenez. Donc les articles de foi, c'est-à-dire, ça fait partie du kérigme aussi, et ça peut être également le titre d'un ouvrage. Par exemple, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la publication. Par exemple, le traité du Saint-Esprit de Saint-Basile, ben, le titre traité du Saint-Esprit, on va appeler ça kérigme, parce que c'est l'ordre de la publication officielle. Bon, et surtout, alors ce qui est kérigme, je m'arrête là-dessus, ça y est, on est dans les temps, tout ce qui concerne Pâques. Et l'activité kérigmatique de l'Église, alors là, elle se manifeste de manière liturgique, incontestablement. Vous savez que, tous les orthodoxes, que un des caractères fondamentaux, disons, de la célébration orthodoxe de Pâques, c'est ce qu'on appelle le prohod, hein, c'est-à-dire la procession et la sortie, justement, de l'Église, et le fait qu'on va dire Christ est ressuscité en dehors des limites de l'Église. En dehors des limites de l'Église, on va le dire au monde, on va le dire le plus loin possible, on va le dire dans les rues, on va le dire... Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, donc il y a quelque chose qui est intéressant, je vais peut-être quand même m'arrêter là-dessus, c'est le rapport entre, au fond, le mystère pascal et le kérigme. Il y a quelque chose de pascal dans le kérigme, au sens où c'est une sortie. C'est le Christ qui sort du tombeau, la vérité qui sort du tombeau, c'est le passage du tacite à l'explicite, du mystère à la manifestation. C'est-à-dire, dans le tropaire de la théophanie que nous avons chanté tout à l'heure, on dit « Tu t'es manifesté au Christ ». Non, ça c'est le tropaire de la transfiguration. « Dans ton baptême, dans le Jourdain, au Christ, tu es manifesté ». L'adoration due à la Trinité, l'Esprit sous forme de colombe, confirme la vérité de cette parole. Christ Dieu, qui est apparu et qui t'est manifesté au monde, c'est ça? Gloire à toi. Donc l'idée de théophanie ou d'épiphanie, ça c'est de nature kérigmatique aussi. C'est quand Dieu sort de son silence et qu'il dit qui il est ou qu'il montre qui il est, quand le Christ est apparu. Tu es apparu. Enfin, l'idée, voilà. Donc vous voyez un petit peu, je crois qu'on a tout bien compris ce qu'on a essayé de dire ce soir, le rapport entre donc le caché et l'explicite, le dogme et le kérigme, le tacite et le proclamé, et qu'il faut essayer de garder. Vous voyez, il faut être conscient de ça dans notre vie ecclésiale, notre vie liturgique et notre vie chrétienne. Alors justement, les fois prochaines, si Dieu nous prête vie, donc je voudrais articuler ce qu'on a dit là à deux aspects de la théologie, puisque mon sujet cette année c'est la théologie, hein, et dans son rapport avec le monde justement. Et c'est sur l'aspect, la théologie, ce qu'on appelle la théologie négative, la théologie positive, ou la notion d'apophase et de cataphase. Parce que je pense que ça recouvre la même réalité. Entre le non-dit et le dit. Et évidemment, ce qui est dit, c'est pour ça que j'avais pris comme thème la notion de théologie dans son rapport avec le monde, je crois, au début. C'est parce qu'en fait, quand même, si le chrétien, il se soucie de dire au monde la vérité, autant qu'il peut, et autant que le monde peut la recevoir. Mais avec discernement, on ne dit pas tout, on dit ce que pense qu'on doit dire. Par exemple, le Christ est ressuscité, ça, on doit le dire, ça. On doit le dire. Si c'est pour dire uniquement à l'intérieur de nous, entre nous, le Christ est ressuscité, voyons, c'est un contresens. Et d'ailleurs, c'est très important, il y a un théologien contemporain qui s'appelle Rudolf Bultmann, qui a dit ça, il a dit, la résurrection, c'est quelque chose qui est vrai pour les chrétiens. Voilà. Or, ça, jamais un orthodoxe ne dirait une chose comme ça. La résurrection, c'est pas vrai pour les chrétiens, la résurrection, c'est vrai en soi. Il se trouve que les chrétiens l'affirment, mais c'est pas vrai pour nous, vous voyez, c'est pas notre opinion de chrétien, quelque chose qui se définirait simplement à l'intérieur d'un groupe religieux appelé christianisme orthodoxe. Et c'est pour ça qu'on sort. On sort, on sonne les cloches, on a des cierges, on chante très fort, on a l'encens, on met des vêtements extraordinaires. C'est une manifestation, une manif, la grande manif chrétienne de la résurrection. Sans aucune allusion à l'actualité. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je vous demande pardon. Ah, il y avait quelque chose. Ça arrive chez vous. Bonsoir.
Lisez.
Annick de Soussonnet disait qu'il n'y a que deux dogmes chrétiens, la Trinité et la divino-humanité du Christ. Est-ce judicieux de le dire en société, en classe par exemple, quand le sujet est amené, afin d'avoir des idées claires et de pouvoir distinguer ce qui est chrétien et ce qui ne l'est pas, ou vaut-il mieux se taire, laissant les autres dire des erreurs ou des propos confus? C'est vrai que c'est un autre contexte. À partir du moment où les personnes croient savoir quelque chose du christianisme et disent devant nous une bêtise, nous devons intervenir. Si on dit du mal de quelqu'un que j'aime, je ne vais pas le laisser calomnier devant moi. Mais, à mon avis, il n'y a pas à aller parler de la Trinité à tout le monde. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement... vous voulez entendre parler de la Trinité, venez dans l'Église, venez dans l'Église. Venez. On va prier, on verra tout à l'heure si on parle et comment on peut en parler. Parce que ce n'est pas un enseignement qui relève d'un pouvoir humain. Ça ne dépend pas de nous, la Trinité. Ce serait une doctrine à nous, on pourrait en parler à tout le monde, on l'expliquerait facilement, mais ce n'est pas à nous, la Trinité. C'est une révélation que Dieu fait de lui-même. Donc, nous sommes porteurs de ça, mais ça nous dépasse complètement. Bon, on n'est pas là pour le transformer en doctrine, justement. Moi, je me méfie du mot doctrine, vous voyez. La transformation du christianisme en doctrine, c'est comme la transformation du christianisme en morale, la transformation, ce sont des perversions. Vous voyez, on a perverti le christianisme en le transformant en doctrine religieuse. Alors évidemment, dans des cours, si on fait des cours sur l'histoire des religions, on dit les chrétiens pensent que, etc., mais c'est de la perversion, c'est pas de la connaissance, vous voyez. Et c'est vrai pour les autres aussi. Qu'est-ce que j'ai à dire, moi, sur ce que croient les musulmans? Je peux rien en dire, je ne suis pas musulman. Qu'est-ce que je vais à dire? Il dit, il croit ceci, il croit cela, j'ai lu un que sais-je sur l'islam qui dit que... Bon. Oui, c'est pas... Donc, que chacun se taise. Si tu n'es pas membre du corps et du Christ, du corps du Christ par le baptême, tu n'as rien à dire du Christ. Rien. Je ne peux pas t'en dire grand-chose non plus. Et simplement, c'était l'exemple. Autrefois, les gens voyaient les chrétiens, c'est l'époque où les chrétiens s'aimaient. Alors les gens disaient, comme ils s'aiment. Ils disaient, nous aussi on veut être chrétiens, nous aussi on veut participer. Mais sans grande conscience, vous voyez. Et même nous, je vais prendre l'exemple de moi-même, quand nous sommes devenus orthodoxes, au fond, nous ne connaissions rien à l'orthodoxie. Nous sommes passés près d'une église qui était ouverte, nous avons été saisis par la beauté des icônes, la beauté de la célébration. Et on s'est dit, c'est là que j'ai envie d'être, c'est là que j'ai envie. Mais on ne savait rien. Je vais vous dire, c'est il a coupé la main. Je crois que Saint-Irénée, c'était une femme, par exemple. Pour vous montrer mon ignorance, parce que j'ai entendu Saint-Irénée. Alors que, bon, je dis, c'est une sainte. C'est pour vous dire à quel point j'étais une ignorance crasse. Mais j'avais, maman était christianisée, était enfant, était de bonne foi, je voyais une église ouverte avec une splendeur. Et on voit ça, vous savez, quand les gens étaient à l'époque de Saint-Vladimir, chercher une religion, etc., pour les Slaves. Les Slaves, ils adoraient les cailloux à l'époque, encore, c'était au Xe siècle, pratiquement. Et donc, les gens ont dit, écoutez, on est arrivé dans un endroit, c'est le ciel sur la terre. Alors, les gens ont dit, bon, ben, c'est ça qu'il nous faut. Et après ça, on leur a expliqué. Je crois que il faut expliquer après, pas avant. Et par exemple, les icônes, vénère les icônes. Mais je veux comprendre, vénère les icônes. Laisse-moi tranquille, vénère les icônes. Quand tu auras vénéré les icônes, je t'expliquerai.
Pas possible.
Eh bien oui, mais vous êtes une occidentale.
Non, justement, moi je ne suis pas occidentale. Mais j'ai vu, parce que comment on peut, si vous voulez transmettre quelque chose, si on ne peut pas expliquer. Et moi je parle qu'avec des athées, parce qu'autour de moi je peux vous dire qu'il n'y a que ça. Oui. Et en France, c'est vrai que c'est ça. Et alors tous. Ils me disent, ah bah oui, tu nous dis des choses, c'est pas écrit, comment veux-tu? On ne peut rien croire à ces choses-là. Oui. C'est des sorcelleries ou c'est des choses comme ça. Donc je ne peux pas lire autre chose. Qu'est-ce qui est écrit? Il me dit, l'évangile, il a été écrit.
Non, dites-lui, viens et vois.
Ah non, il ne peut pas venir.
Et bien tant pis pour lui, il viendra une autre fois. Le jour où il va venir, c'est que l'Esprit Saint le conduit.
Ah oui, mais alors là, on ne peut jamais.
Non, mais ça, c'est la grande différence. C'est pas enregistré la réponse.
Si,
mais ça fait rien.
Non, parce que c'est la grande différence entre les catholiques et nous, par exemple. Les catholiques pensent que la mission, ça consiste à répandre dans le monde l'explication, la connaissance, etc. Les orthodoxes ne pensent pas à ça. Tu sais ce que la mission pour nous, c'est ça, c'est Séraphin, qui va dans un coin, qui reste 1000 jours et 1000 nuits sur une pierre, à prier pour ses péchés et pour le salut du monde, et qui après ça va au monastère et accueille les gens qui viennent. C'est un grand missionnaire. Mais il s'est réalisé comme foyer de vie, comme foyer d'attraction. Moi, c'est très. C'est l'idée, si vous voulez, qu'il faut expliquer d'abord pour que les gens entrent dans la vie après, ça, je crois vraiment que c'est faux. C'est vraiment lié à la culture occidentale, ça.
Oui, c'est
mais je pense que c'est très faux.
Oui, c'est sûr.
C'est très faux. Et moi, je viens, parce que je peux en parler très librement, parce que j'ai été produit dans la culture occidentale, universitaire et tout. Et donc, je sais où est l'erreur. Je l'ai appris. Pas à mes dépens, parce que j'ai appris pour mon bien, j'ai compris que c'est l'inverse. Même Pascal, il y a un très grand bonhomme en Occident qui est Blaise Pascal. Et Pascal, Blaise Pascal dit, écoute, mets-toi à genoux et on verra ce qui se passe. C'est-à-dire, fais le geste, prosterne-toi, entre dans le mouvement, fais les choses, et on verra après.
Non, on ne peut pas dire ça aux gens avec lesquels vous discutez, c'est comme si on coupe.
Mais ils sont complètement dépendants du rationalisme.
Ah oui, bien sûr.
Pour être missionnaire, en fait, nous sommes choisis pour ça.
Je n'ai pas compris, pardon.
Pour être missionnaire, nous sommes choisis pour ça.
Nous sommes
choisis.
Oui, c'est vrai aussi.
Je veux choisir pour être missionnaire.
Oui, mais c'est pas.
C'est vrai. Mais la mission, tout le monde en parle beaucoup, ça. La mission, c'est. La mission, c'est quand même lié essentiellement à la présence réelle du Christ par le Saint-Esprit dans l'Église et à l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas lié à un discours humain qui serait persuasif, par exemple. Nous ne sommes pas persuasifs. Les saints sont persuasifs, mais pas en parlant. Saint Antoine, par exemple, ne disait rien du tout. Et là, vous connaissez cette histoire-là, pardon. Des gens qui venaient et puis qui restaient là. Alors un jour, Saint Antoine a dit, toi, là, je te vois tout le temps, là, tu viens dans le monastère, mais... T'as pas une question à poser, quelque chose? Et le jeune a dit, mais non, père, moi je te regarde, ça me suffit. Vous voyez? Et je vous assure, là je pourrais citer aussi des évêques que j'ai connus, des gens parlant très. Bon, Père Sofiane, par exemple, j'étais la bénédiction de connaître un peu Père Sofiane Bogu à Bucarest. Père Sofiane, je vous assure qu'il ne parlait pas beaucoup. Mais il m'arrive de rester avec lui dans la cellule, 1 heure, 2 heures, il ne disait pas un mot. Mais il me disait, mais restez là, papa, quand vous allez voir, les gens vont venir. Et donc, je regardais ce qu'il faisait, je regardais comment il faisait, et sa façon d'être. Mais il se communiquait quelque chose de lui à moi par, par le fait d'être ensemble. C'est impressionnant. J'ai appris énormément de personnes sans qu'ils me disent rien.
Et... Mais même Saint Paul, il a quand même dit des choses que les autres ne connaissaient pas. Ils étaient tous plus ou moins païens. Et quand même, il les a, je ne vais pas dire le mot converti, mais il les a approchés en leur disant des choses.
Oui, ça je ne suis pas sûr de ça, excusez-moi. Parce que les lettres de saint Paul, elles sont écrites à des communautés chrétiennes. Elles ne sont pas écrites à des non-chrétiens. Donc on ne sait pas... Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il prêchait dans les synagogues. Donc il prêchait déjà en milieu juif, où il y avait déjà une culture biblique à couper au couteau, vous voyez. Et j'ai l'impression que les gens venaient parce qu'ils sentaient qu'il y avait là une vie. Et puis ils venaient parce qu'il se passait. Les gens sont venus vers le Christ. Ils ne parlaient pas tellement le Christ non plus, vous savez. Il faisait des miracles et il était. Et les gens disaient si on va. À qui est-ce qu'on va aller si tu n'es plus là ? Oui, ils étaient attirés par sa personne, par sa sainteté. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer complètement au kérigme, comme disent les pères, il y a quand même des choses à dire. Hein. Mais il faut préserver quand même ce qui est fondamentalement la vie du Christ. Dans l'Église et l'acquérir la paix. Saint Séraphin de Sarov même, il dit acquiert la paix du Saint, la paix du Christ, et des gens par milliers autour de toi seront sauvés. Et ça c'est la méthode missionnaire. Oui. Acquérons, devenons des saints. Vous allez voir comme le monde va se convertir. Ça sera extraordinaire. Mais là, pour le moment, on zappe la sainteté et on s'active dans des tas de trucs. On est dans l'activisme souvent religieux, et nous les orthodoxes, nous sommes très très contaminés par la mentalité occidentale, c'est que si tu ne fais rien, tu n'es rien, parce que tout est dans le faire.
Oui.
Et alors que la mentalité orientale, l'orthodoxe, on est quand même plus des orientaux, c'est ce que tu es qui est important. Et ça, soit chrétien, soit saint, tu vas voir. Tu vois, tu ne verras peut-être pas d'ailleurs, mais des gens par milliers autour de toi seront sauvés, c'est-à-dire se convertiront. Ça, je crois beaucoup à ça. Mais c'est pas une manière d'abdiquer. C'est pas le confort non plus, parce que c'est jamais le confort de devenir un saint de toute façon. Bon, voilà, vraiment, là, c'est le premier, là, on s'arrête vraiment. Ah, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Paul à l'aréopage, oui. Oui, c'est vrai. Mais justement, ce qui s'est passé à l'aréopage, ça confirme en fait ce que nous disons. C'est qu'il a raté. Les gens lui disent, écoute, toi que tu as une nouvelle doctrine, on t'écoutera une autre fois. Et il est parti. Il y a eu deux personnes qui se sont dit, tiens, il a dit un truc intéressant, on va essayer de le revoir, on va lui téléphoner, pour voir si on peut prendre rendez-vous. Mais les autres gars qui fonctionnaient justement, ils fonctionnaient là, tous, pour eux c'était une doctrine, ils étaient appelés la résurrection, ils se disaient, qu'est-ce que c'est que cette doctrine nouvelle ? Parce qu'il y avait tellement de philosophies nouvelles qui sortaient de temps en temps. Mais je crois que ça fait partie des échecs, quand même. Il y a quelque chose qui démontre, justement, que tu peux aller parler, faire des conférences, que tu veux, à des intellectuels sur le christianisme, et le rendement, c'est 1%, peut-être. Alors que la sainteté, c'est beaucoup plus. La sainteté, le martyr, vous savez, l'Église ancienne, elle a été éloquente par le martyr.
Mais, par exemple, nous n'avons aucun mérite. Enfin, je dis ça comme ça, parce que je le ressens. Aucun mérite d'être là, je dirais les Roumains, d'être orthodoxes, parce qu'on est né orthodoxe, on reçoit le baptême, on a eu, encore moi je n'ai pas eu parce que j'ai été pendant le régime communiste, donc je n'ai eu aucun enseignement religieux, mais je n'ai aucun mérite d'appartenir à cette Église. Or, je voudrais quand même que d'autres... la voix dans sa beauté. Et si je ne leur dis rien...
Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, c'est vrai, quand on dit que l'Église est apostolique, c'est-à-dire que la dimension missionnaire de l'Église est fondamentale. Une Église qui ne serait pas missionnaire, ce ne serait plus l'Église. Je suis d'accord avec vous. Mais même vous, les quelques Roumains qu'on voit à l'Église, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'en France, le nombre de Roumains qui se trouvent est un nombre extraordinairement important. Et que le pourcentage de Roumains qu'on voit à l'Église, c'est un tout petit nombre de gens qui ont un certain mérite, effectivement, qui sont orthodoxes, parce qu'ils veulent l'être, qui viennent à l'Église, qui se convertissent à l'orthodoxie de leur enfance, et souvent, ils sont souvent seuls. Le nombre de Roumains que je vois, je leur dis, tu es d'une famille croyante, plus ou moins été frère, ta frère, etc. Non, ils ne vont pas à l'Église, je suis la seule. Mais il y a quand même un choix, il y a quand même une démarche personnelle. Hein.
Oui, ça suffit pas.
Mais bien sûr, si vous avez reçu une enfance, compte. Mais regardez, combien êtes-vous ? Je sais, vous êtes un... Pas, C'est un petit nombre quand même. Et je vois dans toutes les émigrations orthodoxes ici en France, la très grande majorité des émigrations est hors de l'Église parce qu'elle s'intéresse à tout à fait autre chose.
Parce que les gens me disent, moi je prie tous les jours, je n'ai pas besoin d'aller. Je prie, je fais oui. prière, mais bon, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. Alors on ne peut pas... Ben,
bon, c'est déjà pas mal.
Mais on ne peut pas leur dire...
C'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais c'est un bon début quand même. Le stade suivant, c'est effectivement de découvrir l'Église ben comme oui. corps du Christ.
Ben oui, oui. Justement.
Bon. Non, mais de toute façon, pour, les pères n'excluent pas la mission. Simplement, oui, oui. C'est une question de discernement. Une question de discernement.